Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Morane.
Salut à tous.
Eh oui, encore un podcast intime, n'est-ce pas? On aime ça. On aime l'intimité à Game Info. Au sommaire de l'actualité, cette semaine, nous vous parlerons d'un retrait de feature de Divinity Original Sin. Oui, parce que c'est pas SimCity, n'est-ce pas? Nous enchaînerons ensuite sur le coup de gueule de Morane. Je crois qu'on pourrait appeler ça comme ça. C'est quoi, Morane, ton coup de gueule cette semaine?
Mon coup de gueule, c'est des espèces de petits vandales qui utilisent le Humble Bundle à leur profit. Vous verrez.
3D Gearbox, pour ceux qui n'auraient pas suivi ces deux formidables compagnies, le lien entre elles, c'est un certain Duke Nukem. Hein, 3D Realm ayant a priori revendu la licence à Gearbox, mais on verra tout à l'heure que c'est peut-être pas tout à fait le cas. Enfin, c'est une affaire très compliquée, vous allez voir. Nous vous parlerons de Titanfall. Titanfall qui a une manière très intéressante de traiter les tricheurs et qui a aussi fait quelques petites annonces intéressantes cette semaine. Microsoft qui parle de Valve, ensuite, oui, vous allez voir qu'on aime bien la langue de bois chez Microsoft, c'est assez formidable. Faster Than Light qui a une annonce à vous annoncer, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très important, il fallait qu'on vous en parle. Et enfin, ok, bon, on va pas se cacher, vous savez tous par quoi on va terminer, je veux dire, voilà, ça fait un peu la une de tous les sites cette semaine, Ça a été un peu le bordel, ça a été la guerre sur Internet, on s'est foutu sur la gueule. Donc nous allons parler de l'Oculus Rift, le gros foutage de gueule des familles. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument en parler.
Absolument, ouais, on a hâte d'en parler, il y a beaucoup de choses à dire.
Allez, c'est parti, on va débuter ce podcast avec Divinity Original Sin. C'est un RPG qui peut se jouer en coop ou en solo aussi. Ouais. Je tiens à insister, c'est un RPG qui peut se jouer en solo si on contrôle les deux personnages. Morane, est-ce que tu as jeté un coup d'œil à ce projet déjà?
J'avais pas trop suivi ce qu'était Divinity, j'ai découvert un petit peu quand tu m'en as parlé. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, tu m'as parlé d'une certaine feature qui était le cycle jour-nuit. Alors bon, dit comme ça, le cycle jour-nuit, on commence à être un petit peu habitué, surtout dans les RPG. Mais en fait, Divinity avait quelque chose d'assez intéressant à apporter avec cette feature-là, c'est-à-dire que les PNJ réagissaient à ce cycle jour-nuit.
Voilà, les deux joueurs, tout simplement, peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi avec les PNJ. Donc, genre les tuer, etc. À côté de ça, les PNJ, on va dire qu'ils ont leur propre vie. Donc, c'est un jeu qui est assez complexe, fondamentalement. Et il faut savoir que, à la base, sur le Kickstarter, les contributeurs avaient raté le dernier stretch goal. Je crois que c'était à peu près de 60 000 dollars qu'ils avaient raté, ou quelque chose comme ça. Qui était le comportement des PNJ, donc, comme tu le disais, du cycle jour-nuit, mais aussi en fonction de la météo.
Ouais.
Et ça, ne serait-ce que tu vois qu'il y a un cycle jour-nuit, je trouve que ça contribue à l'immersion dans le jeu.
Surtout sur un RPG, parce qu'un RPG, c'est quand même un jeu, généralement, qui se situe sur un temps long. Et si au bout d'un moment, on se rend compte que on est tout le temps à la même période dans la journée, c'est-à-dire qu'il fait tout le temps jour ou qu'il fait tout le temps beau, on se dit mais ça fait 30 heures que je suis dans ce jeu et je suis toujours dans la même journée. Donc on perd un petit peu en crédulité si on est, enfin on se détache un petit peu du jeu s'il n'y a pas ce genre de feature là. Donc c'est important qu'il y ait des changements climatiques et des changements jour-nuit.
Alors il se trouve qu'ils ont gardé les effets météorologiques. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ils ont viré le cycle jour-nuit parce qu'ils se sont rendus compte, par rapport à l'équipe qu'ils avaient, par rapport au fait qu'il va quand même bien falloir qu'ils le sortent, le jeu, un jour, parce que ils l'ont déjà reporté plusieurs fois.
Ouais.
Par rapport au fait aussi que développer cette feature-là, ça rajouterait déjà une tonne de bugs. Qu'ils ont déjà une tonne de bugs à corriger. Voilà, c'est ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient largement sous-estimé la charge de travail qu'il y avait à faire pour implémenter ce cycle jour-nuit. Et du coup, malheureusement, ils l'ont retiré. Par contre, là où ça reste assez flou, c'est qu'on ne sait pas s'ils l'ont retiré de manière définitive ou si ils l'implémenteront en post-release. Mmh. Moi, je trouve que ça serait quand même con de ne pas l'implémenter en post-release, parce que bon, je veux dire, en post-release, le jeu il sera débugué, bon, il y aura le temps de bosser là-dessus, quoi. Enfin, ce serait dommage, mais malheureusement, on n'a pas la précision. Enfin, on va dire que la news sur Kickstarter, donc, parce que c'est une update qui est disponible pour tous les contributeurs, si vous avez contribué, allez voir, est suffisamment floue pour qu'on ait le bénéfice du tout.
Elle est disponible pour aussi les gens de base. Bah, oui, ça serait dommage. En effet, je pense que ils attendent de voir si c'est matériellement possible après. C'est pour ça qu'ils laissent un petit peu un flou artistique. Mais c'est vrai que dans les faits, voilà, on verra dans quelques mois, j'ai envie de dire, quand le jeu sera sorti, qu'il sera débugué, etc., etc., pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de nouvelles là-dessus. Moi, cela dit, ils peuvent aussi clarifier un peu leurs intentions auprès des backers sur Kickstarter. Ça mange pas de pain. Et visiblement, enfin, pour les avoir entendu parler, ce sont des gens qui sont assez clairs généralement sur leurs intentions. Donc, ça serait dommage qu'ils en parlent pas.
Voilà. Je tiens à préciser quand même que c'est un Kickstarter qui est très bien tenu. Je veux dire, déjà, cette feature-là, ils étaient pas obligés de l'implémenter, ils l'ont fait. Bah, ils l'ont fait en partie. Hein, on s'entend bien. C'est un Kickstarter qui est régulièrement mis à jour avec des mises à jour vidéo où ils expliquent très bien pourquoi ils prennent telle ou telle décision. Mm-hmm. Contrairement à un certain nombre de studios qui parfois n'ont pas compris le principe de transparence sur Kickstarter, on va dire. Je ne pense pas du tout entre autres à l'Oculus Rift, hein, mais voilà. Bref, moi je m'inscris un peu dans le ton général par rapport à ces news-là, c'est-à-dire que les gens sont assez déçus. Mais bon, s'il y a pas moyen, il y a pas un moyen, mais je trouverais extrêmement dommage, par contre, que ça ne soit pas implémenté en post-release, parce que encore une fois.
Ouais.
Alors, si c'est bien écrit, il y a moyen de passer outre, mais il faut vraiment que ça soit très, très bien écrit, quoi. Donc, parce que le cycle journée, pour moi, ça fait vraiment partie des features qui fait que, voilà, t'es dedans, quoi.
Ouais, tu m'étonnes.
Bon. Maintenant, on parle du Humble Bundle. Mm. Et des gens qui sont font du profit sur leur dos.
Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des petits malins qui se sont dit, tiens, les jeux Humble Bundle, concrètement, je peux les choper en clé Steam pour à peu près 1 centime de dollar. Et si je revendais ces clés Steam? Et visiblement, c'est possible sur certains sites qui appartiennent à un groupe qui s'appelle Seven Entertainment. Et donc les gens en fait revendent les jeux, je sais pas, une dizaine de dollars par exemple, une clé Steam. Les gens les achètent. La différence, c'est que la personne qui revend cette clé l'a payée grosso modo 1 centime. Et il y a rien du tout qui va ni à la charité, puisque je rappelle que Humble Bundle, en dehors d'être un site qui a énormément de succès et qui fait pas mal d'argent, donne aussi un certain nombre de ses revenus à des associations caritatives, mais aussi aux développeurs de base. Là, quand on fait ça, il y a rien du tout qui va ni aux développeurs ni aux associations caritatives. Il faut savoir que cette démarche est complètement illégale et que c'est le développeur de Proteus qui a mis à jour cette supercherie. Il est allé jusqu'à acheter une copie de son jeu sur un de ces sites-là pour les comparer à ses bases de clés et voir où est-ce qu'elle avait été achetée, cette clé. Et donc, elle a été achetée via le Humble Bundle. A été revendu, je sais pas moi, 100 fois plus cher. Moi, je trouve ça assez scandaleux d'utiliser en fait la bonne volonté des gens via le Humble Bundle pour faire du profit. Je trouve ça, voilà, ça m'a complètement choqué. Je voulais en parler cette semaine.
Bon, après, j'aimerais relativiser un peu sur certains points. Quand tu dis la bonne volonté des gens, bon. Quand même, à la base, ils font ça parce que ça fait un certain nombre de ventes et que ça leur fait quand même une belle recette.
Faut
connaître ça. Non, parce que je voulais vraiment qu'on soit clair sur ce point-là. Après, est-ce que c'est une surprise? Moi, ça me surprend pas. Enfin, je veux dire, quand tu vois comment c'est facile de se procurer une clé. Quand tu vois tout le commerce parallèle qu'il y a sur Steam, je veux dire, il y a commerce entre les utilisateurs déjà sur Steam, par exemple. Mmh. Ça va de pair avec le fait qu'ils autorisent que tu puisses refiler ta clé, notamment.
Ouais.
Et malheureusement, je suis désolé pour eux, mais moi, si on m'autorisait pas à redonner ma clé, je n'achèterai rien sur le Humble Bundle, hein, concrètement. Mmh. Parce que déjà, en général, ce qui sort sur le Humble Bundle en ce moment, enfin, depuis un moment déjà, j'en ai au moins la moitié, si ce n'est pas les trois quarts. Mmh. Donc, quel intérêt pour moi de rajouter un jeu à la pile, tu sais, enfin voilà quoi. C'est, oui. Moi, j'aime bien distribuer mes jeux, etc. Et ça, malheureusement, ça. Je vois pas comment ils pourraient bloquer ça. Faudrait que la clé soit nominative ou bien directement au compte, tu vois. Donc, ouais. C'est pas possible. Donc, moi, ça me surprend pas. C'est d'une logique implacable, quoi. Je veux dire, il y a moyen de filouter là. Quand tu vois qu'il y a des sites des pays de l'Est, voilà, qui vendent les clés, enfin, ce genre de choses, ouais. C'est dans la logique, hein, après.
Ah, non, c'est clair. Ça me surprend pas non plus. C'est juste que, voilà, ça reste scandaleux, même si c'est pas surprenant.
On va maintenant parler de 3Drizm et de Gearbox. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, on va vous refaire le film. Hein.
Ouais, brace yourselves, hein, parce que c'est quand même assez compliqué.
Donc, à la base, il était une fois Gearbox, qui arrive en sauveur et qui reprend Duke Nukem Forever, qui s'est quand même avéré bien pourri, hein, faut dire ce qui est. Bon, on pouvait donner le bénéfice du doute à l'époque à Gearbox, hein, mais bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Gearbox acquit les droits de Duke Nukem. Mm. Et à ce moment-là, normalement, Gearbox laisse à 3Drizm la possibilité de faire encore un jeu. Mmh. 3Drizm, il y a quelques mois de ça, annonce travailler en partenariat avec un studio. C'est le studio qui est notamment derrière Rise of the Triad, qui s'appelle Interceptor, pour faire un nouveau Duke Nukem. Alors, il faut savoir que le jeu qu'ils annoncent ne porte pas le même titre que le jeu qui était censé faire 3Drizm.
Voilà. D'accord.
Pour préciser. Donc, il y a soupçon de filouterie, quoi, on va dire. À ce moment-là, Gearbox, il fait, hop, tot, 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 tot. S'il vous plaît, là, vous voyez, là, c'est les deux personnes, c'est nos avocats, là, vous allez discuter avec eux, hein, et vous allez arrêter vos conneries, hein, merci. Les gars de 3Drizm reconnaissent qu'ils sont dans leur tort. Là, on se dit que, bon, voilà, c'est enfin normal, quoi. Mm. Ils annoncent qu'avec Interceptor, ils vont essayer de discuter avec Gearbox et trouver un terrain d'entente. Mm-hmm. Ok. Sauf que là, rebondissement cette semaine, on apprend que 3Drizm, qui donc a été entre-temps racheté par Interceptor, oui, ils ont été rachetés. Je ne sais pas qui peut être assez fou pour acheter cette boîte, mais bon, c'est pas grave. Contre-attaque avec les avocats d'Interceptor et dit qu'en gros, Gearbox ne possède pas les droits de la licence du Nukem et que, ben, en gros, Gearbox leur a un peu forcé la main quand ils avaient plus un sou, quoi, on va dire. Parce que très clairement, je pense que c'est ça, ils ont vu les avocats, ils ont fait, ok, on a plus de thunes, là, les mecs, on va pas pouvoir se taper un procès. Et donc, ils ont dit qu'en gros, Gearbox avait menacé les deux fondateurs et que c'est pour ça qu'ils avaient reconnu, contraint et forcé, qu'ils avaient fait une connerie. Et donc, du coup, ils disent maintenant que Gearbox n'a pas les droits de Duke Nukem.
D'accord.
Donc voilà, et moi, dans tout ça, je me pose là, je pointe du doigt à Gearbox et je fais... Non, voilà. On pourrait faire aussi un peu la Moundir, tu vois. Justice! Justice! Non, parce que voilà, je veux dire, Gearbox, qui s'est allègrement foutu de la gueule de ses clients sur Alien Colonial Marines, qui a un peu arnaqué ses gars au passage, ou qui sont fait un peu... bon, qui ont été un peu naïfs sur ce coup-là, faut le dire aussi. Enfin, voilà, ça... Je sais pas, je trouve que c'est un retour du bâton comme ça. Tu sais, ce qu'on appelle le karma, le retour de bâton du karma, il est... Ça fait plaisir.
Ouais, bah c'est bien compliqué comme histoire. Mais bon, après tout, voilà, c'est... Je veux dire, faut toujours faire attention à ce qu'on fait, et surtout dans cette industrie où tout peut être lié à des brevets, à des licences intellectuelles, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu... Ils auraient dû un petit peu faire plus attention, je pense, à ce qu'ils faisaient. Mais bon.
Non, bon, après, je voudrais pas charrier les mecs, hein, mais vous êtes en train de vous battre pour la licence du Nukem, là.
Grave.
comment vous expliquer que cette licence est totalement has-been et que, à un moment donné, va peut-être falloir passer à autre chose, quoi. J'ai adoré du Nukem dans les années 90, hein, c'est pas le sujet. Ouais. C'est juste que Je vais reprendre cette métaphore que j'avais une fois sur Internet. Je crois que c'était un des gars de GameCube qui l'avait sorti. Quand tu revois Duke Nukem, c'est un peu comme, tu sais, tu revois un pote de lycée mais qui aurait pas changé, tu vois. Enfin, c'est le mec qui était drôle quand t'étais au lycée, mais finalement, quand tu vois l'humour beauf, gras, etc., ça marche moins bien, qu'on va dire.
Ouais, c'est clair. Non, c'est surtout qu'en plus, moi, un nouveau jeu Duke Nukem, ça me fait, mais alors, pas du tout envie, quoi.
Ben, en termes d'humour, ça m'attire pas du tout. Mais alors, un gameplay super dynamique à l'ancienne, moi, ça ne déplairait pas, tu vois. Enfin, je trouve que ça manque de FPS comme ça, justement. Ça serait pas mal d'avoir plus de FPS, disons, moderne dans cette veine-là. Ouais. Après, c'est clair que la licence du QKM, bon... les mecs, va falloir arrêter, là, à un moment donné, faut laisser le mourir, quoi, c'est, il faut le laisser partir, quoi, je veux dire.
Laisser le mourir de sa même pas belle mort.
Voilà, je veux dire, vous avez suffisamment saccagé cette licence comme ça, laissez-le partir. Bon, ensuite, nous allons maintenant évoquer Titanfall et les tricheurs. Mordren.
Alors vous le savez, c'est une problématique assez régulière quand on parle de FPS, surtout des FPS multi, et qu'il y a souvent de la triche. Alors je sais pas exactement comment ils s'y prennent, mais bon, généralement c'est ils achètent des comment ça s'appelle, des viseurs qui font des headshots directs, par exemple, pour donner, pour faire très simple.
Bah, disons que c'est des programmes tiers en gros qui tournent. Voilà.
C'est ça. Bon, et il se trouve que en plus Titanfall est jouable sur PC et Xbox One. Donc voilà, j'imagine que sur PC ça doit être la fête du slip. Et il se trouve que donc Respawn Entertainment, qui s'occupe du jeu, a trouvé une bonne parade en fait. Ils vont donc réussir à déterminer qui triche, et au lieu de les empêcher de jouer, ils vont leur dire, bah voilà, t'es un tricheur, bah tu vas jouer avec les tricheurs. Donc j'imagine qu'il va y avoir des serveurs spécifiques pour les tricheurs, qui vont donc se retrouver tous ensemble, et ça va être à qui a le meilleur cheat, en fait.
Ah bah du coup, ça risque d'être drôle. Hein. Moi, ça m'intéresse, tu vois, comme mode de jeu.
Et donc du coup, le mec qui a acheté, tu sais, son application tierce, mais qui est pourri en fait, enfin qui était très bien contre les joueurs lambda, mais qui est moins bonne que d'autres cheats, il doit être tellement déçu. Il s'en frotte déjà les mains chez Respawn, et moi ça me fait bien rire.
Bah, le truc c'est que je pense qu'en fait il n'aurait pas dû le dire.
Ouais.
Je vois les mecs, putain, mais je comprends pas. Hein. Vas-y, c'est Costarnac, là, j'ai payé ce truc trop cher, je me fais défoncer. Attends. Hein.
Ah mais merde, il va peut-être falloir que je joue vraiment au jeu, en fait.
En tout cas, moi, je trouve que c'est une solution que j'aime assez.
Ouais.
C'est pas une nouveauté, hein, je veux dire, c'était déjà notamment présent dans le mutine de Max Payne 3, il me semble. D'un côté, ça t'évite, entre guillemets, la mauvaise publicité, parce qu'il faut bien voir que les gens qui se font exclure définitivement du jeu, après ça va râler sur les forums, etc. Ça raconte des conneries en plus, donc du coup le studio se retrouve accusé de choses qu'il a pas forcément faites. Bref, ça fout le bordel. Alors que là, moi je trouve que c'est vraiment une solution, voilà, les gens qui jouent honnêtement, on va dire, ils sont pas emmerdés, les tricheurs, ouais. Ben voilà, ils s'éclatent entre eux, quoi. J'aime beaucoup cette solution. Et je préfère aussi à d'autres solutions, notamment genre bizarre, ouais vous allez tout le temps vous connecter, enfin je vois ce genre de truc, quoi.
Ouais, cela dit, Titanfall étant un jeu multijoueur, t'es obligé de te connecter, mais après non, ce qui est bien en plus pour Respawn, c'est que ils gardent en fait leur base d'utilisateurs actifs. Parce que au lieu de bannir tout simplement les gens, ce qui fait baisser fondamentalement leur base de joueurs, ils gardent tous les joueurs qu'ils ont. Et je sais pas exactement, par contre, si jamais il y a quelqu'un qui décide d'arrêter de tricher, si ils ont un moyen de revenir sur les serveurs normaux. Ça, bon, l'histoire ne le dit pas.
Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est très pédagogique. Tu triches, bah écoute, tu vas voir ce que ça fait.
Ouais.
Tu vas voir comment c'est agréable de jouer avec des tricheurs. Ouais, j'aime beaucoup. Alors aussi, par rapport à Titanfall, on a eu d'autres nouvelles. Notamment, ouais. Je crois que il y a une histoire de mode de jeu gratuit, c'est ça?
Yes. Il y aura par la suite de l'aventure Titanfall, de nouveaux modes de jeu. On imaginait en fait que ça ferait partie de futurs DLC. Ce qui ne sera pas le cas, en fait. Respawn l'a annoncé cette semaine. Les nouveaux modes de jeu sortiront gratuitement pour tout le monde et ils ne feront pas partie des DLC. Alors, on imagine que les DLC, en dehors de trucs un peu cosmétiques, concerneront surtout les maps, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de maps dans Titanfall, enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, dans la phase de bêta. C'est bien parce que il y a une des critiques assez régulières quand on voit les tests de Titanfall qui dit en fait qu'il y a pas assez de modes de jeu, ce qui est vrai. Mais souvent les modes de jeu sont pas très très originaux, donc c'est évidemment une bonne idée de la part de Titanfall pour les joueurs et voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de choses plutôt que des packs de DLC qui disent ah bah tu veux jouer au mode zombie, bah tu le payes mais 15€ par contre.
Bah après. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Parce que je veux dire, ils ont été quand même pas mal été critiqués sur ça.
C'est clair.
Et le fait de faire payer les modes de jeu après, à mon avis, bon, je pense que les gens auraient quand même beaucoup râlé, même s'ils auraient fini par casquer, quoi. On va dire. Donc, c'est pas comme si non plus ils étaient là en mode grand seigneur, tu sais.
Ouais, c'est clair. Après, j'arrive pas trop à me rendre compte si l'aventure de Titanfall est une aventure finie, c'est-à-dire est-ce que ça va repartir comme du Call of Duty, est-ce qu'on en aura un par an, ou est-ce que Titanfall est censé être un jeu multi qui se crée sur la longueur, est-ce qu'il va y avoir donc des modes de jeu un peu régulièrement, des nouvelles maps, etc., etc., et on va voir en fait un Titanfall numéro 1 qui va durer 2-3 ans, je sais pas, mais si c'est le cas, c'est la meilleure chose qu'il puisse faire, ajouter du contenu gratuitement pour avoir une base de joueurs qui reste permanente en fait. Donc voilà, je sais pas exactement ce qu'ils ont prévu pour Titanfall. Bon, le succès est au rendez-vous. Après, je sais, enfin,
on a eu des retours au niveau des ventes en fait. Ou...
On a eu des retours au niveau des ventes de Xbox One avec Titanfall. Et visiblement, le cercle vertueux s'est un peu mis en place, c'est-à-dire que Titanfall fait effectivement vendre l'Xbox One, mais on n'a pas encore, il me semble, de chiffre de vente clair et net.
Ok. Bah tiens, on parlait de Microsoft là. Vous connaissez, c'est quoi, c'est Phil Spencer, je crois.
Oui.
Voilà. Donc Phil Spencer, hein, qui nous avait un peu une sortie en mode bullshit cette semaine, en mode oh là là, Valve, franchement, c'est des gens super bien. On aime beaucoup ceux qui font pour le PC. Pourquoi je voulais relever cette remarque, c'est parce que bon, on va pas me faire croire que chez Microsoft, ça les fait pas un tout petit peu chier que Valve soit en train de promouvoir Linux, quoi. On va pas me faire croire qu'ils sont en train de se réveiller en ce moment justement parce que Valve est en train de promouvoir Linux. Voilà, enfin, les mecs, c'est bon, on a compris, voilà. Jusqu'à maintenant, l'argument numéro un de Windows, on va dire, c'est les jeux. Il se trouve que petit à petit, bon, on est encore loin, hein, mais petit à petit, Linux grignote son retard, et que c'est pour ça que voilà, vous recommencez à « Ah tiens, ça existe le PC !» Ouais, ouais, on aime beaucoup ceux qui font Valve, hein, ils ont beaucoup contribué à ce que le jeu sur PC fonctionne, on les adore les mecs et tout, GG les mecs. Enfin bref, voilà, c'était juste pour un petit tacle comme ça au passage.
Oui.
Merci d'arrêter le bullshit, les gens.
Stop the bullshit.
Morgan.
Oui.
Faster than light.
Ah, faster than light. Ça y est, on a enfin une date pour la Advance Edition de FTL. Elle sortira le 3 avril, donc c'est-à-dire deux jours après que le podcast sorte, ce qui me fait plaisir. À savoir que la Advance Edition, c'est un petit peu faster than light plus en mode beaucoup plus hardcore. Donc voilà, je pense que je vais essayer 2 minutes et puis je vais sans doute me pendre. Savoir que Faster Than Light Advanced Edition sort à la fois sur iPad, donc pour je sais pas combien d'euros, et sur PC en tant qu'update gratuit pour tous les possesseurs de Faster Than Light édition basique. Donc voilà, ça ajoute des races, des armes, des vaisseaux, de nouveaux événements aléatoires, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne le 3 avril, sachant que si jamais ça vous plaît pas, vous avez aussi le choix de rester sur la version de base.
Morane, on sait tous les deux que tu vas craquer. Arrête de faire genre tu vas rester 5 minutes. On sait tous les deux que tu vas être addict, que tu vas rager parce que tu finiras jamais le jeu. Ça, ok, on est d'accord. Mais on sait tous que t'es un putain de drogué, quoi. C'est bon. En plus, ça te fera un bon jeu à streamer sur ta chaîne, tu vois.
ouais, pourquoi pas. On verra.
au moins un ou deux épisodes où tu vas montrer ton incompétence.
C'est ça. Un ou deux épisodes, le temps de mourir et après j'arrêterai, je pense.
En attendant, je te rappelle que t'as joué un certain nombre d'heures sur le jeu de base.
C'est vrai. Non, mais ce qui me fait peur, c'est que l'Advanced Edition soit vraiment, vraiment beaucoup trop dur. Sachant que le jeu de base, j'ai jamais réussi à le terminer. Ça peut être compliqué.
Et voilà. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont fini Faster Than Light et les autres. Voilà. Vous et avez les autres. C'est pas Mandraine.
J'assume totalement.
En plus, même pas foutu de finir en vacille, quoi. Sérieux.
Chut.
Bon. Allez. Mordane, dossier de la semaine.
Ouais.
Vous l'attendiez tous. On ne pouvait ne pas en parler. Et pour tout vous dire, c'est limite à cause de ça qu'on a fait un podcast cette semaine, en fait.
C'est vrai.
Oculus Rift. Oculus. l'Oculus Rift, c'est quoi? C'est, pour ceux qui auraient dormi au fond d'une grotte, un dispositif de réalité virtuelle. Mmh. C'est un bon gros casque que vous mettez sur la tête et ouais. Bienvenue dans le troisième monde. Ça avait été financé sur Kickstarter, hein, comme tous les projets Kickstarter, n'est-ce pas? Et ça avait reçu, je crois, 4 millions de dollars, hein. Voilà, c'est dans ces eaux-là, il me semble. Hein,
truc dans ce genre-là.
Voilà. Donc, un projet qui avait bien marché, hein, surtout qu'à la base, il devait demander genre 400 000 dollars. Ou, enfin, voilà. C'était un projet assez modeste pour développer un prototype. Ils en ont reçu 4 millions, au final. Donc, on va dire qu'il y a eu du changement cette semaine. Parce que, bon, tout le monde s'imagine Kickstarter, les indépendants, voilà, on est là pour promouvoir le jeu indépendant, les entreprises indépendantes qui veulent se passer des investisseurs et qui se font racheter plus tard par Facebook. Voilà.
Alors juste un petit erratum, en mai 2013, ils ont récolté 16 millions de dollars. Et en décembre 2013, ils en avaient récolté 75 millions de plus. Donc, c'est pour noter que c'est pas simplement que 4 millions de dollars, hein, qu'il y a vraiment des gens qui croient dans le projet et sur le Kickstarter, mais en plus du côté des développeurs, en fait.
Exactement. Donc, revente à Mark Zuckerberg, hein, pour alors 400 millions de dollars en cash.
Ouais.
Plus 1 million, enfin
1,6 milliard de dollars en stock option de Facebook.
Voilà. Donc évidemment, j'imagine qu'ils ont fait ça pour le projet, hein. C'est pas du tout parce que c'est Facebook qui les a payés 2 milliards de dollars, hein. C'est pas du tout, pas du tout. Les 1,6 milliard en actions, ça va être très utile pour le projet, je le sens. Enfin bref. Donc revente à Facebook. Shitstorm sur Internet, hein, vous imaginez bien. Damage Control en mode non mais les mecs c'est trop cool. Grâce à Facebook on va aller plus loin, etc. Vous allez voir. En plus tu vois ils sont en train d'essayer d'acheter la communauté en faisant genre mais voyez là cette semaine on a engagé toute l'équipe qui bossait sur le projet chez Valve. Là il nous manquait un mec, l'ingénieur en chef on l'a chopé. Donc ça y est on a toute l'équipe qui faisait le super prototype qu'il y avait chez Valve là. Et donc on a toute la Dream Team. Vous voyez que ça sert de se faire acheter par Facebook, hein. Vous voyez. Voilà, ça c'est le résumé de la situation. Mandraine, ton sentiment, s'il te plaît.
Alors moi, quand j'ai vu ça sur les unes de tous les sites internet de jeux vidéo et autres, d'ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce que Facebook vient foutre là-dedans? Parce que, concrètement, alors, je comprends que Oculus Rift ait envie slash besoin de financement pour créer autre chose que des prototypes. Et donc faire une production de masse d'Oculus Rift en vue de sa commercialisation prochaine ou pas, parce que concrètement pour vendre quelque chose comme ça, c'est pas juste des dev kits qu'on envoie en gros en mode il y en a 1000 dans le monde et voilà, ce qu'ils veulent c'est quand même, enfin si vous voulez c'est un petit peu comme quand on vend une console de jeu, voilà, il faut quand même avoir la production derrière. Et ils ont aussi, j'imagine, besoin de communication autour. Donc voilà, j'imagine que Facebook leur permet en termes de cash d'avoir des possibilités de ce côté-là. En revanche, je comprends pas en fait, parce qu'autant Oculus Rift a beaucoup à gagner avec ce deal, autant Facebook, j'ai pas l'impression qu'il gagne grand chose en dehors de se placer peut-être en tant que pionnier sur sur le marché de la réalité virtuelle. Je vois pas en gros comment ils vont rentabiliser cet achat de 2 milliards de dollars, parce que en dehors de l'implémentation sauvage de Facebook dans la réalité virtuelle, j'ai un petit peu de mal à me représenter en fait ce que peut foutre Mark Zuckerberg là-dedans. Mais bon, ça c'est juste mon point de vue à chaud.
Alors moi, mon point de vue, il va être simple. Ça a été beaucoup de rage sur le moment. Ça a été beaucoup de haine aussi. Hein. Voilà. J'ai quand même eu une petite douleur à l'arrière-train pour ceux qui ont financé le projet. Hein. Ça doit faire mal quand même, hein, de se faire prendre comme ça. Je pense que ça doit quand même être assez douloureux, surtout que là, le morceau, il est assez gros, quoi, on va dire. Après, objectivement, je pense qu'Oculus a eu raison. Le truc, c'est que, en fait, pourquoi la plupart des gens gueulent? La plupart des gens gueulent, je pense, pas parce qu'ils ont été rachetés, mais parce que c'est Facebook. Je pense que les gens ont tort de gueuler pour ça. Pour moi, ils devraient gueuler parce qu'ils se sont fait racheter tout court, en fait.
Ouais.
Parce que, honnêtement, ils auraient pu être rachetés par qui sinon? Microsoft? C'est sûr, c'est une entreprise tellement plus vertueuse que Facebook, enfin bref. Google? Mais sérieusement, les gens? Voilà. Apple? Ah oui, non mais c'est bien connu, Apple est une société très respectueuse de ses clients, qui ne promouvoit pas du tout des systèmes complètement fermés, enfin bref. Enfin voilà, je veux dire, parmi toutes les grandes entreprises du secteur high-tech, enfin, quelle société aurait pu racheter Oculus sans déchaîner une shitstorm comme celle-là? Ouais. On me répondra Valve. Moi, je dirais ouais, ok, c'est vrai, ils ont une belle image auprès des joueurs, c'est vrai. À ceci près que bon, on sait tous que Valve ne veut pas faire du physique. Je veux dire, ils le font pas pour leur Steambox, alors pourquoi le feraient-ils pour Oculus Rift? Voilà. En plus, bon, j'ai envie de dire, la notion d'entreprise vertueuse, c'est quelque chose de très subjectif. Hein. Par exemple, par rapport à Valve et Steam, je connais certains de nos auditeurs, hein, spécial dédicace Thanos, hein, n'est-ce pas, qui pourraient vous dire des heures et des heures tout le mal qu'ils pensent de Valve. Voilà. Ouais. Donc c'est une notion tellement subjective que bon, déjà à la base pour moi il y a un biais. Par contre, pour moi, il y a un péché originel si tu veux avec l'Oculus Rift, c'est que autant ça m'aurait pas dérangé si ils avaient été financés par des moyens genre financement participatif à la Project Cars, tu vois.
Ouais.
Project Cars, je rappelle, vous êtes actionnaire du projet, tout simplement, et à partir d'un certain nombre de ventes, vous recevez des sous. En gros, c'est une major compagnie, sauf que là, c'est directement auprès du studio de développement, quoi.
Ouais.
Franchement, j'aurais dit, ok, bon, ils sont dans une optique de trouver de nouveaux investisseurs. Leurs investisseurs, apparemment, sont d'accord, vu qu'ils ont financé le projet, qu'ils disent rien. Enfin, voilà, quoi, normal. Ok, bon, Facebook, je suis pas fan, mais après tout, ils font ce qu'ils veulent, quoi.
Ouais.
Sauf que là, par quoi ils l'ont fait financer? Ils l'ont fait financer par Kickstarter. Alors, les esprits cyniques me diront, non mais, enfin, Coco, t'es gentil, Kickstarter, c'est pour financer des projets, point. Et ils ont reçu leur dev kit, et les gens n'ont rien à dire. Ah, sur le papier, je suis d'accord, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, on parlera après des différents commentaires qu'il y a eu sur le projet, notamment Cliff Bleszinski et Notch. Fondamentalement, vous allez voir, je suis à peu près d'accord avec à peu près tout ce que dit Cliff Bleszinski, en fait. Sauf que, il y a quand même un petit souci, c'est que, à la base, Kickstarter est né parce que ce que j'appelle, d'une manière générale, les investisseurs, alors les investisseurs, ça peut être les éditeurs, ça peut être les business angels, ça peut être les banques, enfin voilà, tous ces gens qui sont censés mettre l'argent dans des projets ne faisaient pas correctement leur boulot. En tout cas, de mon point de vue. Et du point de vue d'un certain nombre de personnes, puisque c'est à cause de ça qu'est né le financement participatif. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, alors, je parle du cas spécifique du jeu vidéo, là, mais ça peut s'appliquer un peu partout. Hein. les créateurs sont bridés par le fait qu'ils sont dans des structures tellement énormes qu'on a des objets, des projets calibrés, etc. Et pour pouvoir les débrider un peu, on va faire en sorte de les financer par un autre biais, qui est le financement participatif, où on va distribuer les risques grâce à la puissance du réseau, en fait. C'est-à-dire que on va profiter de la puissance du réseau pour dire que, ok, un investisseur, normalement, ça hésite, et c'est normal parce qu'il y a genre $500,000 qu'il faut mettre dans un petit projet, tu vois. C'est quand même une grosse somme à sortir, même pour un business angel, donc il hésite et c'est normal. Ok, donc on va faire en sorte de mettre en place un système où chacun va mettre 30 euros dans le projet, ou 20, ou 10, enfin peu importe.
Ouais.
On met en place ce système-là, les gens se répartissent les risques, et plutôt que de faire un système où chacun est actionnaire, parce que, je veux dire, si c'est pour se retrouver avec 3000 éditeurs sur le dos du studio, ça va pas être possible. À quoi bon changer de modèle, je veux dire, si c'est pour qu'ils ne gardent pas leur indépendance créative. Donc on va faire un système, un mi-chemin, on va dire, entre le mécénat et la donation, quoi.
Ouais.
Parce que pour moi, c'est pas du pur mécénat, vu que le mécénat s'applique vraiment, tu n'as rien en échange. Alors que là, quand même, tu dans le cas du jeu vidéo, par exemple, en général, tu reçois le jeu, ce genre de choses, même si tu peux ne rien demander en échange. Mais soyons honnêtes, s'il y avait rien, personne ne donnerait rien. Hein. Faut être logique.
Et c'est d'ailleurs d'où vient la contradiction que certaines personnes pensent que Kickstarter c'est aussi de la précommande. Et ce qu'on essaie aussi de désamorcer quand on en parle sur Game Info, quoi.
Parce que je le rappelle, la précommande tu es remboursé, Kickstarter tu n'es pas remboursé. Voilà. Donc, pour moi le péché originel il vient de là. C'est-à-dire, ma bonne dame, que voyez-vous, nous avons un peu mis ce système en place pour foutre dehors les investisseurs, et que les investisseurs, ces couillons, ils reviennent par la fenêtre. Donc, si on accepte ça, on est en train d'acter que les investisseurs, on a mis en place ce système-là pour pallier au fait qu'ils ne faisaient pas leur boulot, et non seulement là, ils ne font pas leur boulot, mais en plus, ils profitent de ce système qu'on a mis en place pour dire « Ok les mecs, c'est gentil de faire le trip pour nous, c'est gentil de payer le prototype pour nous. Maintenant qu'on a beaucoup moins de risques à prendre, que vous avez fait émerger les projets intéressants, que vous avez payé quand même la base du développement, quoi, dans le cadre de Oculus Rift, ils ont quand même payé le développement du prototype, quoi. Que vous avez fait la démonstration que la technologie était en place.
Et qu'il y avait un public aussi. Parce que tous ces gens-là, pour les éditeurs, c'est des gens qui vont l'acheter aussi, le produit fini.
Mais c'est ce que je voulais dire par le fait d'élaguer, justement. C'est de faire émerger un produit qui intéresse le public.
Ouais.
Bah, maintenant, on prend le relais, hein, merci, au revoir, on prend l'argent, puis salut, quoi. Enfin, voilà. Là, c'est ce qui s'est passé, très clairement.
Exactement.
C'est, les couillons ont payé le développement du prototype. Et après, ben, c'est Facebook qui est venu rafler la mise. Ça m'aurait pas posé de problème si Oculus était arrivé à la base en disant « Alors, salut les mecs, nous, notre projet, c'est vraiment de faire, de développer la réalité virtuelle. Pour ça, on a besoin d'énormément de moyens. Vous allez juste financer le prototype et juste le prototype. Et après, on va le vendre à des grosses boîtes. Alors, on me répliquera que il n'avait peut-être aucune idée du fait que ça allait marcher à ce point-là. Moi, je dis très bien. Mais vous allez quand même pas réussir à me faire gober, les mecs, qu'ils n'avaient pas conscience que pour produire ce genre de technologie, avec tout ce que ça implique en termes de recherche et développement, en termes de moyens, etc., ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'énormément d'investisseurs. Ils le savaient forcément. Et ça, c'est un autre point où je voulais revenir, c'est que les contributeurs du Kickstarter ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Attention, pourquoi je dis ça? Parce que personne n'a eu l'idée de poser les bonnes questions à Oculus Rift. Et quand je dis personne, je nous inclus ici à M'Info, j'inclus les journées, j'inclus tout le monde. Parce que on nous a caressé dans le sens du poil, On nous a sorti des grands formules qui vont bien, tu vois, by gamers, for gamers, enfin les formules qui font plaisir, tu vois, qui te donnent l'illusion que tu es proche du studio alors qu'ils ont strictement rien à foutre, enfin bref. Et après, du coup, comme on avait l'impression que c'était nos potes, et ben que c'était une entreprise vertueuse, machin bidule mes couilles, on n'a pas posé les bonnes questions, on n'a pas utilisé notre tête et on s'est pas dit à un moment donné, mais attends là, mais c'est quand même un produit physique, quoi. Ils ont l'ambition pour que ça marche, pour que les éditeurs acceptent de développer des jeux là-dessus. Il faut fondamentalement qu'il y ait une énorme base installée. Et pour qu'il y ait une énorme base installée, il faut un soutien financier qui est absolument monstrueux sur le projet, quoi. Je veux dire.
Ouais.
Donc voilà, on n'a pas utilisé notre tête et on le paye aujourd'hui, quoi.
Ouais, mais c'est à dire que encore une fois, c'est, je pense que c'est le projet qui veut ça, parce que quand on parle de jeux vidéo, ça fait 40 ans que ça existe le jeu vidéo. Dès qu'on parle de jeux vidéo, on a la réalité virtuelle en tête, et forcément, le premier projet qui arrive comme ça est à tous les joueurs qui disent oh mon Dieu, mais ça serait génial. Et c'est à dire que on perd tout. On redevient totalement naïf, en fait, face à un projet tel que celui-ci. Et à l'inverse de certains projets Kickstarter qui se lancent maintenant, notamment c'est Kingdom Come, le RPG médiéval, qui dit, en gros, concrètement, nous, on a besoin de montrer à notre mécène qui est derrière nous qu'on a un public, mais il nous donnera le reste de l'argent après qu'on ait fait le financement. Ça, c'est des projets qui te le disent de but en blanc. À l'époque, on n'était pas du tout au courant que ça pouvait se passer comme ça sur Kickstarter. Et c'est ça, maintenant, où on se dit qu'on est floué, c'est que en fait, on s'imaginait pas du tout dans notre crédulité que on pouvait revenir après un Kickstarter au mode de financement habituel, revenir à l'éditeur, en fait. Et je pense que c'est ça qui choque le plus, à mon avis. Pas forcément que ce soit Facebook, mais...
Moi, je suis persuadé que ça aurait été notre boîte, ça serait passé comme une lettre à la poste, mais...
Tu crois ?
Ouais, je suis persuadé. Je suis persuadé, parce que tu vois tous les commentaires, tout machin, c'est Facebook, 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 Facebook. Les gens ont une haine viscérale pour Facebook, qui est méritée d'ailleurs, je pense, parce que ils ont l'impression que c'est une entreprise, c'est le Electronic Arts du,
ouais.
Je veux dire, regarde Electronic Arts, c'est pareil, je pense qu'il y a une haine irrationnelle pour Electronic Arts, et je sais que c'est une boîte que j'aime pas, hein. Mais ouais. Je veux dire, le fait par exemple qu'Electronic Arts se retrouve tous les ans comme lauréat de la pire entreprise américaine, ouais, en termes d'éthique, faut arrêter les mecs, quoi. Sérieux, c'est j'aime pas cette boîte, mais il y a infiniment pire aux États-Unis, quoi. Faut stop le délire, quoi. Et je pense que Facebook, c'est exactement la même chose, et je pense qu'ils auraient choisi une boîte qui a une meilleure image. En tout cas, honnêtement, tu dis Valve, moi je suis sûr que ça passe comme une lettre à la poste, ouais. C'est tout le monde, mais alors tout le monde. Après, bon, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais...
Ouais, non, je suis assez d'accord. Bon, après, Valve, c'est pas logique parce qu'ils seraient eux aussi en train de tester des prototypes, mais j'étais assez d'accord avec ce que tu disais la dernière fois, enfin tout à l'heure, en disant que. Genre, si ça avait été Microsoft, si ça avait été je sais pas qui d'autre, honnêtement, moi, je pense que ça aurait fait exactement le même effet, parce que ce qui fait chier, fondamentalement, c'est qu'il y ait quelqu'un qui reprenne tout ça. Alors, certes, Facebook a pas forcément la meilleure aura qu'on puisse avoir en termes d'entreprise, parce que, voilà, Facebook a quand même une très très longue histoire de dire, bon, bah, écoutez, ça sera comme ça, et puis ça changera jamais. Et derrière, genre, 2 ans après, on dit, ah, mais en fait, finalement, ça a changé. Voilà, c'est ça qui fait peur, à mon avis, avec Facebook. C'est-à-dire qu'on sait pas fondamentalement ce que va devenir Oculus Rift avec Facebook. Parce que pour l'instant, tout est beau, tout est magnifique, même du côté d'Oculus Rift. Mais qui nous dit pas que dans 5 ans, Facebook va pas dire, au fait, ça serait bien qu'on mette ça en place aussi sur Oculus Rift, un truc pourri, évidemment, qui respecte évidemment pas la vie privée ou peu importe, j'en sais rien. Mais, voilà, je pense que c'est ça aussi qui, qui fait gueuler les gens sur Facebook, c'est que voilà, c'est une politique d'entreprise qui est tellement étrange et parfois tellement aberrante que surtout sur le jeu vidéo, parce que ça s'est aussi passé, parce que ouais, Facebook a aussi eu des soucis avec les jeux vidéo sur sa plateforme. Voilà, se répéter ça sur la réalité virtuelle, je pense que les gens sont pas forcément hyper chauds. Après voilà, est-ce que ça va faire vendre plus de Project Morpheus, j'en sais rien. Je suis pas sûr que ça ait un impact en fait sur Oculus Rift.
En termes technologiques, si clairement, ne serait-ce que le fait qu'ils aient débauché toute l'équipe de Valve.
Ouais.
Ça a forcément une influence, hein, je veux dire. Alors après, je voulais revenir sur un sujet, c'est que il y a clairement deux camps qui sont dessinés durant cette polémique. Il y a ceux qui, on va dire, ne partagent pas la philosophie que j'ai dessinée plus tôt, à savoir qu'ils sont là uniquement pour le projet et qui s'en foutent de savoir s'il est racheté après ce genre de choses. Et il y a ceux qui, comme moi, pensent que c'est censé financer les projets indépendants, que à quoi bon financer ce genre de choses si c'est pour que ça se fasse racheter, voilà, enfin bref. Puis on pourrait dessiner un troisième camp qui est ceux qui se sentent foués tout court et qui gueulent, voilà. Je voudrais juste dire à ceux qui pensent que c'est une bonne chose, qui sont là juste pour supporter le projet, fondamentalement, moi je suis pas du tout persuadé que ce soit une bonne chose. Alors certes, financièrement, on est d'accord, ça va leur donner un essor incroyable pour développer le projet. Mais il faut bien voir que là, quand même, à l'annonce du rachat, l'action de Facebook a baissé.
Ouais.
Ça veut dire que les gens, enfin les actionnaires, ont du mal à comprendre pourquoi Facebook s'embarque là-dedans. C'est ce que tu disais au début. Et en plus de ça, vous croyez quoi? Ils ont mis 2 milliards sur la table. S'ils ont mis autant d'argent... Bon, vous me direz, il y a de l'action Facebook dedans, mais ça reste quand même, enfin voilà, ils ont... Oui,
ça vaut quelque chose.
Ça vaut quelque chose. Vous croyez sérieusement qu'ils ont donné autant d'argent pour ne pas rentabiliser à fond le truc?
Ouais.
Sérieux les mecs, on parle de Mark Zuckerberg là, hein. On parle de Facebook. On parle des mecs qui, quand même, ont démontré à plusieurs reprises qu'ils étaient à peu près prêts à tout et n'importe quoi pour rentabiliser leur activité. Hein, et qu'ils en avaient strictement rien à foutre de la vie privée. Et d'ailleurs, pour eux, le concept de vie privée, je veux dire, quand tu vois leur déclaration, en gros, ça n'existe plus, hein, la vie privée. Vous êtes bien gentils, les mecs. Donnez-nous vos données personnelles, merci. Hein, et puis, la vie privée, ça n'existe plus, d'ailleurs. Enfin, bref. Moi, je crois pas une seule seconde qu'ils n'aient pas racheté ça avec une idée derrière la tête. Et qu'en tout cas, peut-être que ça vient de Zuckerberg et que pour le coup, il a fait ça sans trop réfléchir. Mais derrière, je peux t'assurer que les actionnaires, ils vont réfléchir. Ouais. Et qu'ils vont forcément chercher un moment ou un autre à rentabiliser le truc. Et qu'à ce moment-là, on va douiller. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que je pense que le fait que ça soit racheté par Facebook peut poser un problème. C'est que, à un moment donné, il va bien falloir rentabiliser ça. Et, honnêtement, si c'était si rentable que ça de faire du hardware, je veux dire, ça se saurait.
Ouais.
C'est pas un hasard que Apple bon, ils se font de l'argent avec les iPhones, on est d'accord, mais le cœur de l'écosystème de Apple, c'est iTunes, hein. Je veux dire, voilà.
C'est l'App Store, ouais.
Voilà, c'est l'App Store. C'est pas un hasard si Microsoft cherche à mettre en place son écosystème sur mobile, enfin voilà. L'intérêt, c'est le software dans l'histoire. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire du côté du software, et ça m'inquiète.
Ben, c'est surtout qu'en plus, depuis le début, l'Oculus Rift a dit on ne développera pas de jeu sur l'Oculus Rift. C'est les développeurs partenaires qu'on ira chercher qui vont faire ça pour nous. Alors bon, on a eu un exemple, on va peut-être en parler aussi, de Notch qui, avec ce deal, s'est dit non, voilà, je suis plus là, ne comptez plus sur moi. Est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait d'autres créateurs de jeux vidéo qui se disent que ouais non, finalement Facebook on aimerait bien pas trop y toucher, je sais pas. Bon, je pense que Notch a surtout voulu faire une sortie contre Facebook, il a peut-être pas forcément réfléchi, mais bon, peu importe. Donc voilà, c'est l'important aussi, c'est que Facebook réussisse à rentabiliser ça, et je sais pas du tout quel business model on peut appliquer à ce genre de à la réalité virtuelle en fait, parce que concrètement là on vend du hardware qui va être vendu très 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 cher et qui va aussi à mettre énormément de temps à se rentabiliser, et donc il va falloir qu'ils trouvent quelque chose pour je sais pas implémenter de la pub, je sais pas, du placement de produits dans leur truc, j'en sais rien, mais c'est pour le moment c'est très très flou et je sais même pas s'ils le savent eux-mêmes, enfin j'imagine quand même, mais bref, c'est assez étranger. Donc j'espère quand même que le retentissement de cette affaire-là ne va pas faire du mal à l'Oculus Rift d'un point de vue de partenariat jeu vidéo de chez les développeurs, que ça les freine pas dans leur développement, quoi.
Après, est-ce que toi ça t'intéresse toujours, enfin je veux dire d'acheter un Oculus Rift?
Bah en fait le truc de l'Oculus Rift, c'est qu'encore une fois j'attends de faire ma première expérience avec l'Oculus Rift, de voir ce que ça donne de mes yeux, parce que voilà, c'est pour le moment c'est encore très très flou, je sais pas vraiment ce qu'on peut en faire. C'est un produit qui est très très dur à marketer, parce que tu sais pas, tu peux pas montrer aux gens comment ça fait, enfin ce que ça fait par écran interposé, il faut que tu leur montres physiquement. Donc moi encore une fois, j'ai envie de voir ce que ça donne. Je suis pas sûr d'être le la personne qui va consommer le plus de réalité virtuelle dans le monde, parce que j'ai encore énormément de points d'interrogation concernant cette technologie, et voilà, j'attends d'être conquis, si tu veux. Mais c'est pas maintenant que je peux me prononcer sur mon intérêt sur la technologie. Évidemment, c'est un vieux rêve. Après, je suis encore trop pragmatique pour être emballé, en fait, si tu veux. C'est pour ça que j'ai pas du tout financé le Kickstarter, par exemple.
Moi, honnêtement, là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si j'achèterais un Oculus Rift. Pourquoi? Je le répète, fondamentalement, moi, que ce soit Facebook, bon, je veux dire, ça peut être Facebook, ça peut être Google, machin, bidule, enfin bref. De toute façon, c'est des sociétés américaines qui sont soumises au droit américain, par rapport à les histoires de vie privée, tout ça, bon, on sait ce que ça donne, hein, voilà. Par contre, ce qui me fait dire au jour d'aujourd'hui qu'il y a des chances que je n'achète pas l'Oculus Rift, quand bien même serait-il abordable, c'est le fait que je me dis, voilà, si je veux être cohérent, moi, dans mon raisonnement, à un moment donné, il faut qu'il y ait une sanction quelque part.
Ouais.
Parce que on laisse passer ça, il y a forcément des studios qui vont se dire à un moment donné, ok, bah ça a marché avec Oculus Rift. Donc on va monter notre petite start-up, hein, parce que comme le dit si bien Cliff Bleszinski, qui d'ailleurs avait taclé Notch, hein, qui disait qu'en gros Notch, s'il te plaît, arrête de faire de l'enfant,
c'est ça,
t'es mal poli, machin. Enfin d'ailleurs là ça m'a fait rigoler, hein, parce que juste un petit aparté comme ça, mais Cliffy, attends que je t'explique un truc là. Alors tu as un mec qui, quoi qu'on en dise, a des principes. Moi, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut de Notch, le fait que, oui, il produit plus beaucoup de contenu pour Minecraft, machin, bidule, ok. En attendant, c'est quelqu'un qui redistribue, qui paye bien ses employés, c'est quelqu'un qui redistribue sa richesse, parce qu'il a contribué à énormément de Kickstarter, c'est quelqu'un qui est très actif dans la communauté du jeu indépendant, enfin bref. Le mec a un certain nombre de principes. Il juge qu'en l'occurrence, vous ne respectez pas ces principes. C'est tout à fait son droit de dire fuck this shit. Moi, je suis désolé. Vous, parce que je rappelle que Cliff Bleszinski est actionnaire d'Oculus Rift, hein. Vous avez décidé que c'était votre droit de faire un énorme doigt d'honneur à un certain nombre des contributeurs de votre Kickstarter et de revendre. Très bien. Vous estimez que vous n'avez pas de compte à rendre. Très bien. Alors, pourquoi Notch aurait des comptes à vous rendre? Pourquoi le fait qu'il revend, qu'il annule son jeu serait mal poli? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mal poli? Alors, attends, j'ai bien compris. En fait, quand c'est favorable à l'Oculus Rift, on peut faire toutes les saloperies du monde. C'est très poli. Par contre, quand c'est défavorable, alors là, oh là là, mon Dieu, vous vous rendez compte? Il est mal poli, ce Notch, hein, franchement, aucune manière, hein. Bah, je suis désolé, t'as dit que c'était du business, Coco, assume, c'est du business. Le mec est pas d'accord avec ce que vous faites, il annule le business qu'il avait avec vous, c'est tout. Bah, il est où le problème? Non, voilà, je voulais juste souligner cette petite contradiction comme ça du père Cliffy, parce que bon, ça m'agaçait. Ouais, où est-ce que je voulais en revenir déjà?
Que t'étais plus intéressé par par le projet en fait, et que tu voulais faire payer un peu ce manque de transparence, quoi.
C'est même pas une question de faire payer, c'est que si j'achète l'Oculus Rift, je cautionne. Non, parce que c'est bien gentil d'ouvrir sa gueule, tout ça, hein. C'est comme, je me rappelle à l'époque du boycott de Left 4 Dead. T'avais tous ces mecs-là qui disaient « Ouais, Left 4 Dead boycott, machin bidule. » Ils ont tous acheté le jeu que de la gueule. C'était pareil à l'époque du Diablo 3. Hein. « Ouais, Diablo 3, collection permanente, fouchetage de gueule. » Ils ont tous acheté Diablo 3. Enfin bref, à un moment donné, je veux dire, les gamers, c'est bien d'appeler au boycott, c'est bien d'ouvrir sa gueule. Mais je suis persuadé que parmi tous ceux qui ont appelé au boycott, là, 90%, si l'Oculus Rift est intéressant, ce qui, je le rappelle, n'est pas une certitude, hein, parce qu'on connaît pas le prix de tout ça. Enfin bref, tout ce que tu as dit précédemment, mon Andren. S'il y a vraiment un intérêt à acheter ce truc, je suis persuadé qu'ils ont tous acheté. Je suis persuadé que les gens ont beaucoup de gueule, mais que dans les faits, ça va pas du tout. Voilà, quand le produit sera disponible, ils seront tous à la queue leu-leu pour acheter le truc. Ouais, donc voilà, je veux dire que j'ai pas acheté Diablo 3. Voilà, parce que j'estimais que si j'achetais le jeu, bah je cautionnais. Bah c'est pareil là. Le projet a beau me faire rêver, machin bidule, si j'achète, je cautionne. Je cautionne le fait qu'une entreprise ait profité, entre guillemets, de la naïveté des gens, en tout cas d'une partie des gens, parce que visiblement, il y a, encore une fois, on gueule, mais il y a une bonne partie du public, j'ai l'impression qu'il n'en a rien à cirer, donc c'est leur droit, du coup, hein, qui ne partagent pas les vues qu'on a sur le financement participatif, et c'est tout à fait leur droit. Et après tout, tant mieux, s'ils s'y retrouvent, génial. Enfin voilà, moi je peux pas cautionner ça, donc là au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je pense que je n'achèterai pas un Oculus Rift quoi qu'il arrive, que je m'intéresserai plutôt au projet de Sony, parce que enfin voilà, en plus apparemment il y a Microsoft qui prépare quelque chose, enfin bref, surtout que là pour le coup Microsoft et Sony, ils ont une place à prendre, hein, parce que là profiter du bas de base de l'Oculus pour s'introduire dans la fan, là il y a moyen de faire quelque chose, les mecs, hein. Je dis ça, je dis rien.
Ouais, mais on rappelle quand même que l'Oculus Rift est lié à un PC, que bon, la plupart des gens sont équipés quand même, et que tu vas acheter donc le device, je sais pas, entre 300 et 500 euros, on imagine. Sauf que Sony, pour le moment, le Project Morpheus, c'est quelque chose que tu vas racheter en plus de ta PS4, qui vaut déjà 400 euros. Donc voilà, il y a aussi quelque chose à jouer. Certes, ils ont quelque chose à jouer. Le problème, c'est qu'ils ont aussi des choses qui valent très cher. Donc, faut faire attention en termes de placement de prix, quoi.
Sinon, je voulais te poser une question par rapport à Kickstarter, parce que c'est, on va dire, la victime collatérale de cette histoire. Honnêtement, depuis le début, on le dit, quoi. Je veux dire, à un moment ou un autre, il va y avoir un gros qui va faire de la merde. Et ce moment est arrivé, quoi. Pour moi, là, on est vraiment arrivé au moment où ça y est, c'est le test grandeur nature de Kickstarter. Maintenant que les gens ont enfin compris ce que c'était, maintenant que les gens ont enfin, putain, il était temps, parce qu'il aura fallu qu'on leur mette une bonne claque pour qu'ils comprennent, hein. Maintenant qu'ils ont enfin compris qu'ils n'avaient grosso modo aucun contrôle sur les projets, maintenant qu'ils ont enfin compris que Kickstarter se lavait les mains en cas de problème, est-ce qu'ils vont continuer à donner? Et voilà, pour moi on arrive à ce moment-là, et je sais pas, je voulais te demander, toi, tout simplement, est-ce que tu continues d'avoir foi en le système Kickstarter, mon frère?
Je continue à avoir foi en Kickstarter de façon très circonspecte. C'est-à-dire que pour moi, Kickstarter, c'est pas fait, enfin, c'est pas fondamentalement fait pour les projets énormes. Je suis souvent très désintéressé des projets énormes qui te vendent du rêve, qui te disent c'est bon, tu vas aller sur l'espace, tout ça parce que t'auras donné je sais pas combien à Kickstarter sur notre Kickstarter. Pour moi, un Kickstarter sert fondamentalement à faire connaître, financer des projets qui sont petits et qui peuvent, par l'intermédiaire du financement participatif, devenir gros. et mature. Et voilà, c'est, je suis pas intéressé par des projets qui commencent à 4 millions de dollars, tu vois, c'est, pour moi, c'est pas l'objectif. Pour moi, si c'est des projets qui doivent se financer par la manière traditionnelle, qu'on doit les découvrir plus tard, on doit les découvrir par des prototypes, mais pas créer le prototype par le financement participatif, on est arrivé trop tôt dans le projet Oculus Rift, à mon avis. Et c'est pour ça qu'on est à ce point déçu. C'est parce qu'on, voilà. Normalement, l'Oculus Rift, on aurait dû en entendre parler, cette année, en fait, si ça avait été dans le cheminement traditionnel du financement. Et, voilà, je pense que c'est, pour moi, enfin, je reste sur mon objectif de, enfin, sur ma vision du Kickstarter, où, voilà, je donne, je sais pas moi, 15 euros pour un projet qui est petit, mais qui a du potentiel, et pour moi, ça me paraît étrange de financer du hardware via Kickstarter. Voilà, tu vois, par exemple, ce projet-là, ou le projet Ouya, ça m'a pas du tout, mais du tout parlé, et voilà, pour moi, c'est pas fait pour ça.
Ouais, parce que je voulais t'interroger, pour toi, c'est quoi un gros projet ?
C'est un projet qui déjà est physique. C'est-à-dire que tu vends quelque chose de matériel, parce que bon, un jeu en dématérialisé, c'est pas du tout les mêmes objectifs ou la même vision en termes de production.
Que déjà, donc il faut produire de manière industrielle l'objet.
C'est ça.
Donc ça coûte de l'argent. Ensuite, voilà. Il faut le stocker.
Ouais.
Enfin bref, c'est des besoins de financement qui sont tout autres par rapport au fait de sortir un jeu sur Steam, quoi.
Exactement. Et un projet qui généralement les projets qui sont énormes, je comprends pas trop en fait ce qu'ils viennent foutre sur Kickstarter, parce que si c'est des projets qui plaisent à autant de gens sur Kickstarter, pourquoi ils ont pas réussi à se faire financer par la voie traditionnelle? Alors certes, on va me dire oui, mais c'est des genres de jeux qui sont un petit peu décadents ou qui sont pas bien vus par les éditeurs, d'accord?
Alors,
mais
qu'on soit clair, tu parles par exemple, je sais pas moi, de Project Eternity.
Ouais, par exemple, ouais.
Ah. D'accord. Non mais continue, je te réponds après.
Parce que, enfin, je sais pas, on est d'accord qu'il y a des éditeurs qui sont frileux, machin et tout, mais normalement, s'ils font bien leur travail et qu'ils font appel à des gens qui étudient le marché, ils devraient se rendre compte qu'il y a une base une base d'acheteurs qui a envie de jouer à ça. Alors certes, ces projets-là sont, comment dire, appelé à grandir énormément grâce à Kickstarter, et je suis très heureux qu'il y ait des projets comme Project Eternity qui sont sur Kickstarter, mais encore une fois, pour moi, c'est des jeux que j'achète quand ils sortent et que je finance pas, parce que c'est des jeux qui, pour moi, enfin, je suis persuadé qu'ils vont être financés et qu'ils n'ont pas besoin de moi. Et donc je préfère garder mon argent sur des projets qui sont vraiment ric-rac et qui ont énormément de potentiel, quoi.
Alors là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis que 4 millions de dollars c'est un gros projet. 4 millions de dollars c'est peanuts. Enfin, ouais. je suis désolé de le dire, mais 4 millions de dollars dans le milieu du jeu vidéo, c'est peanuts. Après, bon, je comprends ce que tu veux dire. Je pense aussi que ça a un rapport avec le fait que ce sont des projets qui, en général, misent énormément sur la célébrité des personnes qui contribuent à ces projets-là. Mais justement, pour moi, ce sont des projets qui rentrent dans la catégorie des projets qui doivent être financés sur Kickstarter. Pourquoi ? C'est ce que tu disais, c'est... Oui, mais les éditeurs n'en veulent pas. Alors oui, tu peux me dire que oui, peut-être les éditeurs peuvent faire des sondages, machin bidule. En attendant, je suis désolé, factuellement, ils n'en veulent pas. Regarde, par exemple, le Kickstarter de Westland 2. Brian Fargo explique très bien à longueur de vidéo comment il a essayé de faire financer ce projet et comment il s'est fait rétamer à chaque fois. Donc, le fait est que ces projets sont des projets qui n'auraient pas pu être financé autrement que par le financement participatif.
Ouais.
Et c'est pour ça que pour moi, ce sont des projets qui ont leur place sur Kickstarter. Alors que, par exemple, des projets de hardware. N'importe quel projet de hardware, pour moi, ils n'ont pas leur place. Pourquoi? Parce que c'est une question de faisabilité, en fait. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, comme ça implique de produire un produit high-tech, on va dire, qui va avoir des besoins industriels absolument colossaux, de toute façon, on sait que le Kickstarter ne suffira pas.
Ouais.
Donc, de toute façon, il y a forcément un autre où il va y avoir une couille dans l'affaire, quoi. Alors que le Project Eternity machin truc, c'est pas du tout ça. Je veux dire, une fois que tu l'as fait, le jeu c'est bon, tu le sors sur toutes les plateformes possibles et imaginables, et puis c'est bon, quoi.
Ouais.
Pour moi, c'est pour ça qu'il y a, je pense qu'il y a une différence, tu vois, entre le hardware et le software.
Ouais, complètement.
Après, je pense que effectivement, à partir d'une certaine somme, voilà. Par exemple, là, moi, en ce moment, je regrette de plus en plus d'avoir financé Star Citizen.
Ouais.
Pas parce que je pense que les développeurs font la merde, machin ou truc, mais parce que, en fait, ça devient tellement hors de proportion, si tu veux, que je me dis, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de mon argent, quoi, en fait. Et est-ce qu'à un moment donné, on va pas se retrouver avec une grosse boîte qui va arriver derrière, qui va dire, ah, ça nous intéresse comme projet, enfin bref, fondamentalement, ouais. ils auraient pas intérêt, mais voilà, enfin, c'est les questions qui se posent, quoi.
Je suis voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est-à-dire que pour moi il y a des projets qui n'ont rien à voir avec Kickstarter, c'est les projets de hardware, on est tout à fait d'accord là-dessus. C'est que honnêtement on ne peut pas avec le financement participatif financer un projet de hardware du début à la fin, c'est pas possible, on n'a pas assez d'argent, il faudrait plusieurs Kickstarter en fait.
Après ça dépend du hardware et des objectifs que tu as aussi, hein.
Bien sûr.
Je veux dire par exemple là, je vois par exemple il y a un projet qui vise à refaire un espèce d'Amiga, enfin un clone d'Amiga,
ouais.
Avec un Raspberry Pi, enfin bref, c'est un projet qui est très intéressant, c'est un petit projet niche, tu vois, qui vise un public de niche. Bon, voilà, ça peut se faire dans ces cas-là, je pense.
Ouais.
Mais un vrai projet industriel comme l'Oculus Rift, qui a l'ambition affichée de démocratiser la réalité virtuelle, là, clairement, si on avait eu deux doigts de jugeote, on aurait dû se dire tout de suite, le Kickstarter, ça ne suffira pas, quoi. Faut être sérieux, deux minutes, quoi.
C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. On est vraiment resté dans... le rêve, c'est-à-dire qu'on s'est dit c'est la seule occasion qu'on aura de toucher, de frôler la réalité virtuelle, et il faut absolument qu'on se mette dessus, et c'est dommage parce que j'ai l'impression que les gens s'en mordent les doigts maintenant, quoi.
Après bon, encore une fois, moi le truc c'est que je ne sais pas dans la proportion de ceux qui gueulent, enfin quelle proportion des contributeurs du Kickstarter se sont sentis floués, etc.
Oui.
Bon après tu me diras, on s'en fout, le fait est qu'il y en a qui sont sentis floués et que depuis le départ, ça aurait dû être précisé que ils avaient l'ambition de chercher des investisseurs. C'est pas des Mickey les mecs qui bossent là-dedans, hein. Je veux dire, ils avaient forcément conscience, ils ont travaillé dans des grosses boîtes. Ils savaient forcément que ça allait impliquer de vendre, enfin, en tout cas, céder une part dans l'entreprise à un moment donné à une grosse boîte, enfin bref.
Ouais.
Pour moi, ils savaient, c'est en ça qu'il y a, je pense, eu de la malhonnêteté dans ce Kickstarter. Bon, voilà, tu as quelque chose à rajouter, Morvan?
Non, je pense que de toute façon, on va finir par tourner en rond, donc mieux vaut qu'on s'arrête là, je pense.
Ok, donc on s'arrête là pour cette semaine, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bye bye à tous!
Salut!